Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la Une.
Réseau à la Une, le podcast. Analyse, décryptage et diagnostic des enseignes.
Bonjour et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la Une. Je suis Camille Boulat, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Bonjour Sylvain.
Bonjour Camille.
Réseau à la Une.
Réseau à la Une. Le podcast.
Merci d'être à nouveau parmi nous pour ce nouveau numéro. Alors Sylvain, on le dit à chaque épisode, mais avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, indice créé pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Dogo, directeur réseau de Tutti Pizza. Le réseau lancé en 1989 a su s'établir fortement en région Occitanie, sa région d'origine. À date, Tutti Pizza compte 74 points de vente et souhaite atteindre le cap des 100 unités en 2022. Et pour y parvenir, l'enseigne mise notamment sur ses distributeurs automatiques. Elle nous en dira un peu plus tout à l'heure. Bonjour Laurent, merci de nous avoir rejoints.
Bonjour Camille, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors pour commencer, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation de Tutti Pizza et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne ?
Alors, sur l'évaluation et sur deux thématiques, le DIP, le document d'information précontractuelle et le contrat. Sur le DIP, on a une évaluation de 75% qui est très bonne. Et sur le contrat, on a une évaluation de 71% qui est très bonne également. Donc, on a une moyenne haute hein, par rapport au podcast qu'on réalise régulièrement, qui est à 73%. Donc, le premier point fort, c'est que l'évaluation est plutôt très bonne.
Comment vous réagissez, Laurent, à cette première analyse de Sylvain ?
Je me dis que le travail de fond a déjà été bien abordé. Il reste quelques points et vous l'avez souligné à optimiser, donc il y a quelques variables d'ajustement, mais on va dire que les bases sont solides pour continuer à avancer et pour effectivement intégrer un certain nombre de critères ou en tous les cas de spécificités qui méritent de l'être. Nous l'avions analysé en interne, vous l'avez souligné, même si la note est effectivement excellente. Voilà, il y a une petite marge de progression sur certains critères, donc on va s'y atteler dans les mois à venir.
Justement, Sylvain, dans votre analyse, vous expliquez que dans le DIP, des choses sont à améliorer, notamment l'état national du marché qui devrait être plus dense et actualisé. Pourquoi et quels sont les points d'amélioration justement sur cet aspect-là ?
Oui, alors le DIP est très bien évalué pour plusieurs raisons. Déjà, il est assez simple à lire, donc ça, c'est un point qui est quand même très important. Parfois, on a des DIP qui sont faits par uniquement un regard juriste, avocat, et c'est plus compliqué à lire. Là, on a un DIP où il y a de la pédagogie, notamment la présentation du concept. Donc, c'est des points qui sont assez rares parce qu'ils ne sont pas prévus dans la loi Dubin et dans le décret d'application, et pourtant, ils sont extrêmement importants pour les candidats. Sur l'état général, c'est le point, je pense, d'amélioration principale du DIP. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un marché qui est un marché déjà bien pratiqué, on va dire ça comme ça, où il y a un certain nombre de données qui sont relativement accessibles. Il y a des études qui sont faites régulièrement. Et puis, il y a de la concurrence directe qui est citée dans le DIP, mais il y a aussi de la concurrence indirecte sur le même produit, la pizza, mais des positionnements un peu différents, qui peuvent être moyenne gamme, etc. Des nouveaux concepts qui arrivent et puis de la concurrence indirecte sur la restauration rapide. Donc, ce qui est intéressant, c'est de muscler l'état général pour que le candidat ait une vision globale de ses concurrents directs, certes, mais aussi de ses concurrents indirects qui ont des positionnements différents et puis aussi qui répondent à d'autres attentes de consommation sur le segment restauration rapide. Donc ça, on ne le retrouve pas. Là, il y a vraiment matière par rapport à ce qui se pratique chez les autres acteurs du marché, à muscler pour donner plus de corps en fait, au DIP et puis permettre aux candidats de bien comprendre dans quel environnement ils jouent, en fait. Voilà. Donc, c'est le point, je pense, d'amélioration principale. On a un état de marché qui est un peu court par rapport au marché en lui-même. Voilà. D'accord. Ça se comprendrait sur des marchés qui sont peu pratiqués, où il y a peu d'études. Mais là, on est quand même sur des marchés qui sont très riches en données.
Laurent, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter à ce que vient de dire Sylvain Bartholomeu? Est-ce qu'il y a des précisions que vous souhaitez apporter sur cet état de marché?
Non, effectivement, c'est un état de fait. Le sujet n'est effectivement pas suffisamment développé. Il y a effectivement des données disponibles. Nous venons de réaliser notre séminaire annuel il y a une petite quinzaine, et nous avons effectivement abordé le sujet de manière plus dense lors de notre séminaire qu'il ne l'est dans notre DIP. Donc, c'est un certain nombre de données que nous allons intégrer du coup pour développer ce point.
Voilà. Sylvain, vous expliquez également que dans le DIP, les performances du réseau mériteraient d'être mieux présentées et expliquées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi cela est important et qu'est-ce qui pourrait être amélioré concrètement?
Oui, bah c'est des points qui vont au-delà de ce que demande la loi Dubin, mais c'est toujours important quand on se réfère à l'esprit de la loi qui est s'engager en connaissance de cause. S'engager en connaissance de cause, c'est aussi comprendre ce que peut générer en fait un concept tel que celui-ci. Est-ce qu'il génère effectivement de manière factuelle auprès des franchisés déjà ouverts? Donc quand on peut le faire, c'est intéressant de montrer à des candidats à la franchise bah, ceux qui sont passés avant eux, ce que ça donne. Donc, des indicateurs moyens sur les performances économiques des franchisés, c'est intéressant en restant très factuel, très précis, jamais de promesses hein, sur des sujets comme ça, parce que sinon on peut biaiser le consentement des candidats. Mais on est sur des faits. Aujourd'hui, on a des franchisés qui sont en place. C'est un réseau qui a déjà une histoire, qui a une expérience. Montrer ce qu'un franchisé qui est déjà en place peut réaliser comme performance, c'est intéressant. Voilà. Donc, comme au même titre qu'on décrit le concept dans le DIP, c'est très bien de montrer le concept, de montrer les actions qui sont mises en œuvre en fait par la marque. C'est intéressant de dire bah, de l'autre côté, il y a des investissements initiaux et aujourd'hui sur nos 74 points de vente en place. Les ratios moyens sont ceux-ci. Voilà. Ça me permet, moi, franchisé, de gagner du temps. Ça me permet aussi, quand je montre ça à mon banquier, d'avoir des clés de lecture plus pratiques. Et quand je montre ça aussi à mes conseils, à ma famille, etc., à mon entourage, avant de prendre une décision, d'avoir des données factuelles.
Ça rassure, voilà. Ça rassure ces données factuelles.
Ça rassure et puis ça démarque parce qu'on est sur des marchés, quand c'est bien maîtrisé, la restauration rapide, c'est des marchés où il y a une marge assez confortable. Sur des bons emplacements, c'est aujourd'hui des concepts qui gagnent bien pour les franchisés. Donc, bah, quand ça marche, autant le dire, hein, ça ne mange pas de pain.
Laurent, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les principaux ratios, les principales performances de vos franchisés, que ce soit sur des points de vente classiques ou les tout-imatiques qu'on a évoqués tout à l'heure en introduction?
Alors, Sylvain, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, il faut le dire. Alors, effectivement, on le dit, mais on ne l'écrit pas forcément. Donc, tous ces points, ces indicateurs moyens sont décrits de manière très factuelle lors de notre parcours candidat, lors de notre réception candidat, puisqu'on reçoit nos candidats sur une journée pour, alors sans rentrer dans le détail, mais une présentation générale de l'entreprise pour leur décrire qui on est et comment on travaille. Donc là, je fais intervenir l'ensemble de mon équipe pour que chacun présente sa partie. Ensuite, on fait une dégustation produit, puisque ça, c'est la preuve par l'image et le goût. Donc, dégustation de produits et sur la deuxième partie de la journée, avant d'aller visiter un site, eh bien, nous déclinons effectivement tous ces indicateurs de rentabilité du réseau, des KPI type panier moyen, pour être plus précis en termes de critères de rentabilité. On montre à notre candidat que notre business plan sur 3 ans, il est totalement réaliste, Là où on décrit par exemple un chiffre d'affaires réalisé, chiffre d'affaires moyen du réseau de 20 000 euros au bout de 3 ans, quand on le présente à notre candidat, on lui démontre aussi que dans les faits, pour les candidats qui sont investis dans leur affaire, les 20 000 euros, ils sont plutôt atteints au bout d'un an, 1 an et demi qu'au bout de 3 ans. Voilà, donc effectivement, ces indicateurs, ils sont évoqués à l'oral. Mais effectivement, ça peut aller mieux en l'écrivant. Donc, on pourra aussi compléter notre DIP de ce type de données qui sont totalement transparentes chez nous pour justement, vous l'avez résumé, eh bien, do donner, donner les bonnes bases à notre candidat sans le faire rêver, juste avec de la réalité et du factuel.
Et comme le dit souvent Sylvain, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Donc il est quand même très important de le préciser par écrit.
C'est vrai.
Exactement, d'autant plus en sortie de crise sanitaire où en fait le candidat il a besoin de réassurance, les banquiers aussi ont besoin de réassurance. Donc des éléments en fait sur la moyenne, les maxi et les mini aussi. Parce
Oui.
que voilà, moi franchisé, si ça marche moins bien que prévu, ça veut dire quoi aujourd'hui? Voilà. Donc les top 5, les 5 moins importants et puis la moyenne marché avec les écarts types. C'est des données factuelles, donc c'est non contestable. Et ça permet, voilà, quand on a la moyenne et l'écart type, de se dire, dans mon BP à moi, que je vais construire, parce que moi, franchisé, mon devoir, c'est de construire mon prévisionnel, je peux faire une hypothèse optimiste, une hypothèse pessimiste. Et derrière, le banquier, il va voir ce qui se produit le moins, ce qui se produit le plus, et il va avoir un a priori positif du projet. Voilà.
Et donner
Donc
une
c'est
hypothèse,
intéressant de le construire comme ça.
donner une hypothèse basse, ce n'est pas faire de promesses en tant que franchiseur, parce que vous disiez, il ne faut pas faire de promesses, il faut du
Non, non,
factuel.
quand on est dans le registre du DIP, et même quand on est dans le registre d'un réseau établi, on ne fait pas de promesses, on met des réalisés.
D'accord.
Donc quand on met la moyenne et l'écart type, c'est la moyenne sur 74 points de vente, et c'est l'écart type sur 74 points de vente. Donc c'est un concept qu'on a dupliqué 70 fois, et sur les 70 fois qu'on l'a fait, qu'on l'a répliqué, ça a produit ça. Ça ne veut pas dire que la 71e ou la 72e sera la même chose. Ça veut juste dire que, en l'état actuel des données dont nous disposons, en fait, ça produit ces effets-là. Voilà. Donc, c'est ça qui est important dans la nuance, dans l'information précontractuelle, c'est donner des faits et puis aussi alerter le candidat sur le fait que sur une zone de marché atypique, sur un positionnement atypique, ça peut ne pas se reproduire. Et en tout cas, voilà, un banquier qui voit que 70 fois, ça l'a fait comme ça, sur 70 tests, quand il n'y a pas eu de problématique, on l'a répliqué 70 fois, sur les 70 fois, ça a produit la même chose. Bon, voilà, bon. Après, on sait que les banquiers, des fois, n'aiment pas prendre des risques, mais bon. Voilà.
Pour le contrat, Sylvain, vous pointiez qu'il existe certaines carences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont-elles et quels sont les axes d'amélioration là aussi?
Oui, alors le contrat, encore une fois, il est bien évalué, hein. Il est clair, il est simple, il est équilibré. Donc ça,
C'est
c'est des points
important.
importants qu'on ne retrouve pas systématiquement. Les points de carence, en fait, il y a des points de carence sur en fait, des éléments qui n'apparaissent pas et donc qui ne sont pas contractualisés. Trois sujets importants, un sujet sur les réseaux sociaux qui deviennent quand même prégnants et l'Internet. Donc il n'y a pas d'éléments là-dessus. Donc, je pense que c'est important de mettre à jour parce que c'est des sujets qui deviennent centraux. Le deuxième sujet qui devient de plus en plus important et qui va le devenir dans les années à venir, c'est les données personnelles et notamment les données clients. Voilà. Réglementation RGPD. Donc, pas de sujet là-dessus. Je pense que ça nécessite d'être mis à jour et de contractualiser ces deux points-là. Et puis, un autre point où ça apparaît, mais ça apparaît peut-être pas suffisamment par rapport au contrat qu'on peut lire, c'est tout ce qui relève de l'assistance. On a une clause de contrôle, mais on n'a pas de notion d'assistance. Moi, je préfère qu'on parle d'assistance. On va au-delà du contrôle, on va à l'aide aux franchisés, entrepreneurs indépendants, avec un certain nombre de visites, des réunions annuelles, mais aussi des instances de dialogue. Et là, les instances de dialogue, elles ne sont pas présentes. On parle d'une réunion annuelle, on parle de contrôle, mais on ne parle pas d'animation au sens noble du terme. Donc je pense que ces trois points pourraient être améliorés parce que dans les faits, ils doivent être traités en fait hein, par le réseau. Mais bon, c'est toujours bien de contractualiser les choses, quoi.
Laurent, est-ce que vous souhaitez préciser notamment tout ce qui vient d'être indiqué par Sylvain, que ce soit sur les données clients, sur les réseaux sociaux et sur cette notion d'assistance au sens large?
Alors effectivement, pour donner quelques compléments, donc sur les deux thématiques site internet et réseaux sociaux, effectivement, c'est une carence que de ne pas avoir intégré des éléments dans le contrat, puisque nous avons renforcé les équipes depuis le début de l'année, avec une personne, par exemple, qui a été promue au poste de community manager. Donc, les réseaux sociaux, on a des choses à dire. On a des choses à dire en interne. Et puis, on s'associe aussi avec une agence de com qui nous gère une partie de nos communications sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Sur le site internet, on a aussi une expertise et on est en cours d'intégration d'un nouveau site et de refonte de notre parcours client et des différentes données internet. Donc là aussi, on va avoir des choses à dire. Pour les données personnelles, effectivement, il y a là aussi des choses à écrire pour lesquelles on est en mesure de donner plus de matière. Donc, un point à traiter également. Et concernant donc la partie assistance, bah effectivement, c'est fait. C'est écrit entre guillemets, mais en interne. Ce n'est pas retranscrit effectivement côté candidat. Mais je vous confirme que l'année dernière, nous avons, via l'intégration d'une nouvelle plateforme de gestion de nos candidats et de nos franchisés, pour ne pas la citer, Franchise on Cloud, nous avons donc retravaillé un process d'audit complet pour l'année 2021. Il sera revu d'ici la fin de l'année pour décliner un nouvel audit sur 2022, parce que un audit, c'est pas figé. Hein. Nos commerces évoluent, nos business plans ont besoin d'être optimisés. Donc, il y a un certain nombre de critères qui vont être revus, à la fois en nombre et à la fois en importance. Notamment la satisfaction client, par exemple, ça doit être un critère qui prend beaucoup de poids au niveau de l'audit. Donc, nous avons d'un côté les audits. Donc, l'engagement factuel de l'enseigne, c'est d'assurer à minima 2 audits par an pour chaque franchisé. Ça a été réalisé l'année dernière, ça sera réalisé cette année. Alors, et j'allais dire, et plus si affinité. Si on décèle que nous avons un franchisé qui a des difficultés, par exemple, dans la gestion de son approche relance client, bien évidemment, on va l'accompagner puisqu'on a mis en place un outil au siège pour faire des relances chirurgicales au niveau des relances SMS, par exemple. Donc, on va l'accompagner sur ce sujet, par exemple. Donc, ça, c'est l'accompagnement purement opérationnel animation. Et ensuite, ces actions de terrain sont relayées par des ateliers. Nous impliquons notre réseau dans les décisions du réseau, hein, puisque ça reste quand même les premiers pratiquants, entre guillemets, de ce qui est défini au sein de l'enseigne. Donc, nous allons avoir, par exemple, un atelier sur… l'année dernière, nous avons organisé au mois de novembre. Alors, même si l'année dernière, c'était un peu compliqué pour organiser des ateliers, mais nous avons organisé un atelier produit et de cet atelier produit, une réalisation très concrète, notre nouveau menu enfant, T-Bambino, une petite pizza pour les enfants, la même que pour les grands, plus petits. Voilà, donc c'était une vraie réalisation et on voit que depuis le lancement de cette nouvelle offre, l'offre enfant a pris un net envol. Donc voilà, donc des audits séquencés, plus si besoin, donc là c'est l'adaptation du réseau aux besoins du franchisé, et puis une implication qui n'est pas obligatoire mais qui est fortement recommandée, puisque ensemble on va quand même plus loin, pas forcément plus vite mais plus loin, c'est sûr. Donc on implique notre réseau dans les prises de décision pour la carte, pour l'offre commerciale, pour la fidélité, les, les grands sujets qui font les bases de la marque.
Juste une dernière petite question rapide, Sylvain. Ce qui ressortait des témoignages des franchisés que j'ai interrogés, c'était la qualité des produits qui étaient frais et qui étaient forcément mis en avant par les membres du réseau. Mais ils déploraient que le réseau ne le mettait pas forcément assez en avant en termes de communication. Est-ce que c'est des choses qui doivent apparaître dans dans les contrats et le DIP, voilà, quelles sont vos préconisations par rapport à la qualité des produits?
En fait, les contrats, bon, j'ai exclu la notion d'information précontractuelle là-dessus, mais en fait, le contrat, c'est un peu le sens, le pourquoi. Donc, c'est quoi notre cadre de jeu ensemble? Et après, dans la mécanique franchise, les manuels opératoires, les manuels de savoir-faire, c'est le comment on fait. Voilà. Donc, il y a des sujets qui relèvent, notamment, on a des structures, des grands axes structurants qui sont contractualisés, par exemple l'Internet, les réseaux sociaux, la communication. Et après, il y a le qui fait quoi. Et là, le qui fait quoi et comment on joue ensemble, c'est les manuels opératoires. Donc, sur des sujets comme ça, en fait, ça relève du protocole, c'est-à-dire qui fait quoi dans le dispositif. Voilà. On crée un nouveau produit, très bien. Il y a une logique et il y a un sens et une mécanique de jeu ensemble qui est des instances de dialogue. Ça, c'est contractualisé. Et après, généralement, en corollaire de la clause liée aux instances de dialogue, il y a une charte qui peut participer, comment on participe, etc., etc. Sur la communication, c'est la même chose. On peut avoir des clauses liées à la redevance, aux actions de communication, aux réseaux sociaux. Et après, il y a la méthode, la manière de faire qui se retrouve dans les manuels opératoires. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir une logique en fait, de fonctionnement du réseau qui est claire. En fait. Voilà. Donc, ces points-là, en fait, quand c'est des points qui sont des points d'ordre technique et qui vont évoluer, c'est plutôt dans les manuels opératoires qu'on va les retrouver. Voilà. Par contre, ce qui est figé dans le temps, qui est le sens, l'organisation, ça, c'est contractualisé.
Merci, Sylvain. Laurent, du coup, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cet aspect produit et conclure, ajouter votre ressenti?
Oui, alors, pour le sujet produit, effectivement, je pense que sur les dernières années, l'enseigne n'a pas suffisamment communiqué et on se rend bien compte que ce n'était pas un acquis, en fait, sur le savoir-faire produit. Donc, nous nous employons depuis plusieurs mois à faire savoir notre savoir-faire autour du, allez, ce que j'appellerais le frais maison, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée au sein de l'enseigne sur des produits de qualité. Et effectivement, ce n'est pas encore assez perçu par nos clients et nos futurs clients. Je ne vais pas en citer 50, mais le pâton, il est maison. Il est à base de farine d'Occitanie, avec du sel de Guérande. L'emmental, il est sourcé auprès d'une coopérative vosgienne, donc français. Ça, c'est pour les, on va dire, les produits de base. Et demain, on veut aller encore plus loin. Je vous ai parlé de notre formule enfant. Eh bien, on veut faire évoluer nos recettes vers… là, on a du sourcing produit, mais on veut aussi s'assurer que la recette est, allez, je dirais 100% clean. Donc, on est en train de sourcer une référence de jambon, par exemple, qui soit sans nitrate pour pouvoir répondre à une demande légitime de tout parent de pouvoir donner à son enfant un produit 100% clean. Voilà, donc sur le produit, eh bien, on a effectivement à communiquer encore mieux pour faire savoir ce véritable savoir-faire. Et puis, on doit aussi communiquer pour… donner de la perspective à notre offre qui va toujours de l'avant vers la qualité du produit en termes de sourcing, mais la qualité du produit intrinsèque en termes de ses qualités nutritionnelles.
Je vous remercie à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du réseau à la une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio, Apple, Google ou encore Spotify. À très bientôt.
Réseau à la une.
Réseau à la une, le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.